Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est le cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont deux applications hyper pratiques. C'est clairement un outil créé pour nous faciliter la vie d'entrepreneur. Ils ont des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles, et ils organisent plein d'événements dans l'année. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part, avec le code promo La Compta, c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts. Et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir comme invité Benoît Panel, cofondateur et CEO de Yescapa, le numéro 1 en Europe de la location camping-car et van aménagé de particulier à particulier. Il est parti d'un constat qui l'empêchait à l'époque de pouvoir profiter des vacances comme il le souhaitait et a créé cette entreprise qui respire l'aventure et le bien-être. Une personne que j'ai adorée par sa simplicité, son authenticité et sa bienveillance. Après cet épisode, il y a de fortes chances pour que je me laisse tenter un jour ou l'autre par l'expérience Yescapa. Salut Benoît.
Salut Théo.
Eh ben merci d'être là, merci d'avoir répondu à ma demande, à mon invitation.
Oui, à ton invitation, de cet honneur de parler du premier du pompon.
Eh ben avant de commencer, je vais te laisser te présenter, si ça te va.
Eh ben très bien, donc Benoît Panel, j'ai 43 ans, j'ai un garçon de 18 ans, et depuis 9 ans maintenant, on a lancé initialement Je loue mon camping-car qui est devenu Yescapa.
Yes.
Ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille sur le projet et qu'on associe Adrien Pinson.
Ok, et on lui fait coucou d'ailleurs. Alors, tu as commencé, on va reprendre, enfin j'aime bien reprendre un peu le parcours, voir ce que tu as fait avant ça. Bien sûr, on va parler principalement d'Yescapa. Tu as commencé par l'ESC Tour pour le coup, si je dis pas de bêtises.
Effectivement.
Ouais. Ah oui, bah oui. Et après, t'as pas mal voyagé. Alors, je pense que ça a dû influencer sur la création d'Yescapa, vu que t'es parti au Ghana, t'es parti à Panama City.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un
au
petit
Maroc,
peu
en au Maroc, en Afrique.
Ouais, ok, ouais. Ah ouais, donc t'as fait vraiment
Venezuela. Et effectivement, bah moi, tu sais, mes parents étaient expatriés pendant une période en tout cas.
Ouais.
Et je me revois, voilà, petit garçon quitter l'Afrique pour la dernière fois à 10 ans. Et je me disais dans ma tête, tu reviendras plus tard par toi-même.
Okay.
Et du coup, c'était effectivement le projet que j'ai suivi au travers de mes études, que de pouvoir me redonner une page d'expatriation parce que bah, le voyage, j'aime ça.
Ouais, bah moi, j'imagine. génial. Et j'ai vu chez Puma, t'as fait, enfin, c'était vraiment une aventure entrepreneuriale pour le coup. Et t'en as un petit peu parlé. Enfin, j'ai vu dans des écrits. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est une belle aventure. Enfin, en 3 ans, plus 4500% de vente, ça commençait bien, quoi. Je veux dire, l'entrepreneuriat. Comment ça t'est venu aussi? Ça, je trouve ça toujours hyper intéressant de savoir comment t'es venu l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que voilà.
Alors non, ce chapitre chez Puma au Panama était effectivement une des pages qui m'ont dit tiens, ça peut peut-être être quelque chose d'hyper excitant à faire.
Ouais.
Et on peut arriver à faire des très grands trucs en finalement peu de temps. J'en avais l'exemple sous les yeux, puisque moi j'ai choisi d'aller au Panama puisque la mère de mon fils est vénézuélienne. On savait que le Venezuela c'était pas la peine, ça commençait déjà à partir de toute façon difficile. Ouais. Et du coup, bah, on a tout simplement fait une étude de marché. On a envoyé des questions d'ordre très très pratique. Hein, à quel type de boulot on peut prétendre, rémunérer combien, ça se passe comment pour l'école des enfants, tiens une voiture, t'achètes ça à combien. Bref, ouais, des questions hyper pratiques. À des gens qu'on trouvait, des VIE notamment, qu'on trouvait dans tous les pays d'Amérique latine qui nous tentaient. Et par rapport à cette mini-étude de marché, on a ciblé le Panama. Et en l'occurrence, là, c'était le distributeur exclusif des produits Puma pour l'intégralité de l'Amérique latine, moins le Mexique.
Ouais.
Pardon, moins le Mexique, et ça s'arrêtait également au niveau de la Colombie.
Ok.
Et ça prenait également la moitié des Caraïbes. Et du coup, tous les produits originaux Puma qui étaient vendus dans chacun de ces pays, ils passaient par nous initialement. Mm-hmm. Le type qui montait ça, c'était un Néerlandais qui s'appelle Ronnie Van Hall. Okay. Et le mec avait cartonné en se lançant à partir de rien au Venezuela, puis en devenant distributeur exclusif Nike pendant 8 ans au Venezuela.
Vous connaissez bien le domaine.
Ouais, extrêmement bien. Derrière, il avait pris Adidas, toute Amérique latine à Panama City. Il était parti en tour du monde une fois fortune faite. Mm-hmm. Et puis là, il y avait son fils aîné et son beau-fils qui avaient eu un tout petit peu roulé leur bosse et ils se remettaient au charbon pour les lancer eux deux.
Ok.
Et du coup, c'est un bonhomme qui avait tous les contacts, qui avait toutes les astuces, etc. Au travers de son expérience, ses expériences précédentes dans le sportswear. Et effectivement, quand il a récupéré la licence, il vendait, si on parle que des chaussures, 30 000 chaussures par an, mm-hmm, Puma sur la zone. Mm-hmm. Et on était passé à 3 millions quand j'ai quitté la société trois ans après. Donc, comment je les ai rejoints, on collait des pastilles sur les catalogues et on faisait ça dans son salon et voilà, vraiment en mode start-up bootstrap.
Ouais.
Et puis au fur et à mesure, moi, mon train de vie changeait pas tellement. Par contre, eux, ils allaient à Miami chercher la grosse voiture, puis le gros bateau, puis voilà.
Ok, d'accord. Donc c'est énorme. Enfin, c'est quand même, alors tout n'est pas, enfin, c'est toi, t'as apporté forcément une grande partie. Est-ce que la réussite là, c'est globalement grâce à toi ou c'est quand même toute
absolument
l'équipe?
Absolument pas du tout.
D'accord. Ça pourrait.
J'étais un passager. Moi j'étais un passager qui essayait d'être à la hauteur de la vitesse dans laquelle allait le bateau dans lequel j'étais embarqué. Quoi.
Parce que quand t'es arrivé, c'était encore tout petit. Ça venait.
C'était micro.
Quoi,
ça faisait 6 mois que c'était ouvert.
Ah ouais, okay.
Et on était 10. Je suis parti. Ils étaient un peu plus de 50.
Ok. Bah c'est énorme. Chapeau pour le coup, belle aventure.
Super expérience, ouais.
Ok, génial. Et alors ça, après t'es passé chez Medicalize, ça se dit comme ça, ça va?
Exactement, ouais, super. C'est comme ça se dit.
Parfait, pendant 3 ans là aussi. Et là aussi, comment t'en es arrivé là?
Eh bien écoute, on va dire que mon retour en France était un petit peu précipité de par des raisons très très personnelles. En fait, on se séparait avec ma femme à ce moment-là.
D'accord.
Et on a décidé tous les deux de rentrer en France pour disposer d'une sécurité, être certain que tous les deux on pourrait accompagner notre garçon jusqu'à ce qu'il devienne adulte en étant dans la même ville, hein, parce que les pays en voie de développement, c'est très sympa, ça a plein d'opportunités, mais si t'as un accident de vie, il n'y a aucun parachute.
C'est un peu plus compliqué.
Voilà, il n'y a aucun parachute. Du coup, on avait décidé ça, et puis effectivement, j'ai espéré pouvoir rebondir dans le surfwear dans la région. Et il n'y a pas de poste qui m'ont été ouverts, qui m'intéressaient. Du coup, j'ai rebondi sur Bordeaux dans cette société qui finançait du matériel médical.
Ok. Donc, mais elle n'a rien à voir avec ce que tu avais fait auparavant.
Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Par contre, là aussi, très 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 bien, puisque petite équipe.
Ouais.
Sujet pas extrêmement sexy par rapport au sportswear ou au road trip.
Ouais.
Mais malgré tout, génial, parce que petite équipe, donc 7 personnes, mari et femme qui tiennent ça. Ils étaient passés de 3 à 7 pour essayer de s'ouvrir sur plein de marchés. Et moi, j'étais un peu l'ouvreur des nouveaux marchés. Mm-hmm. Dès que ça commençait à tourner, je passais ça à quelqu'un qui le développait beaucoup mieux que moi.
En France.
En France, ouais. Mais du coup, c'était une aventure sur laquelle on me faisait confiance.
Ouais.
Le type était extrêmement fort. C'était quelqu'un qui arrivait sur la fin de sa carrière, qui s'était pris un gros échec entrepreneurial 20 ans avant, où il est monté une très belle boîte, puis suite à des malversations du comptable, bah, tout s'était écroulé. Et là, il repartait pour sa deuxième aventure en essayant de ne pas repartir.
De changer de comptable.
Mais une main derrière l'autre, comme c'était le cas sur sa première expérience. Ils ont pu revendre la boîte dans de très bonnes conditions. Et tout ça s'est fait parce qu'ils nous faisaient confiance, parce qu'ils essayaient de nous. Voilà, il y avait une vraie rôle de. Une vraie position de passeur de bonnes pratiques et de motivateur. Et du coup, moi, j'ai adoré cette expérience, même si le secteur en lui-même n'est pas le plus sexy du monde.
Ouais. Tu as appris énormément grâce à ton manager.
Beaucoup de transmission grâce à mon manager.
C'est génial. Voilà. Ok. Et puis, on va arriver tranquillement sur Yescapa, pour le coup. Moi, je trouvais ça énorme de lancer l'aventure, en fait. Enfin, le point de départ, c'est le Startup Weekend, c'est ça, à Lannion?
Alors, le point de départ,
toi, t'avais déjà l'idée avant, parce que c'est là où t'as rencontré Adrien, si je dis pas de bêtises.
Ok, en fait, été 2011, sur ce type de métier médicalisé dans lequel j'étais, bon, on t'impose de prendre une grande partie de tes congés sur l'été parce que l'industrie, le business est mort. Ouais. Et du coup, moi, je vais le faire en road trip, plutôt orienté surf, comme je le faisais chaque année. Okay. Cette fois, c'est pour découvrir la Cornouaille et le Pays de Galles. Mm-hmm. Et du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas le faire, la Grande-Bretagne, ça risque d'être plus vieux, pourquoi pas le faire en camping-car.
Légère probabilité.
et c'est là où je vois qu'en fait, l'offre en place, elle est limitée en termes de choix, pas limitée en termes de contraintes. Ouais. Qui t'impose et onéreuse. Okay. Je trouve pas ce qu'il me faut là-dedans. J'ai l'idée effectivement de solliciter sur un forum de camping-caristes anglais. Tiens, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui me ferait confiance, qui me prêterait son véhicule sur la période? Pas de réponse. Du coup, je regarde sur Le Bon Coin, pour partir directement depuis la France. Sur Le Bon Coin, je vois qu'il y a 1200 personnes qui ont déjà inscrit leur véhicule. J'en appelle 30, aucun me dit oui.
Okay.
Tous avec une raison qui va être moi je le loue à des routiers qui ont l'habitude de gros volumes. Ouais. Moi je le loue pas si vous sortez du de France. Moi. Okay, ils ont tous un truc différent. Ouais. Mais ils ont tous un point commun qui est parce que mon assurance ne couvre pas la location, donc faut que je limite absolument les risques. Ouais. Donc les mecs ils sont 1200. Ouais. À prendre le risque de confier un véhicule qui en moyenne vaut plus de 50 000 euros à des inconnus sans assurance adaptée.
Ouais.
Donc là, hop, ça m'allume une petite lumière.
Compréhensible en même temps. Enfin, de leur part, tu te dis si j'ai pas l'assurance.
Voire même très risqué.
Très, ouais,
déjà de faire le pas malgré ça. Mais j'ai une petite lumière qui s'allume. Et puis je rentre de congé et là, effectivement, mes boss m'annoncent qu'ils ont revendu la boîte. Nous présente au repreneur qui était un concurrent, qui nous fait un pitch d'une demi-heure où je me dis « Oh là là, alors avec lui, je m'entendrai jamais, ça tiendra 15 jours, ça tiendra 2 mois ou ça tiendra 2 ans, mais même 2 ans, c'est pas possible.
Ouais, ça va pas le faire.
Il y a un truc humain qui est… Voilà. Ouais, ouais. Ça le fera pas avec cette personne. Et du coup, je lui demande une rupture conventionnelle. Une fois que j'étais sur Startup Weekend et que j'ai vu que j'avais une piste B pour rebondir tout de suite. Et du coup, ce startup, ayant la connaissance que y aura un souci dans le boulot actuel, au moins humainement, je regarde quels sont les Startup Weekend qu'il peut y avoir pour présenter cette idée. Et il y a le premier en Bretagne qui est organisé. Et du coup, je m'y rends. C'était fin octobre, début
tout seul.
Tout seul.
Tout seul avec ton idée,
ouais,
en disant je vais rencontrer du monde. Et tu cherchais à avoir du monde dans ton équipe, déjà?
Oui, tout
vraiment,
à fait. Ouais.
Tu voulais pas faire. Alors pourquoi tu voulais pas faire ça tout seul pour le coup? Pourquoi pas?
Alors non, je voulais présenter mon idée et tenter de faire en sorte qu'elle fasse partie de celles qui sont sélectionnées pour qu'on travaille dessus. Okay. Et puis si ça n'avait pas été le cas, dans tous les cas, j'aurais appris plein de choses sur le week-end et j'aurais vécu une expérience enrichissante.
Ok, ça marche. Mais donc tu cherchais pas forcément quelqu'un qui t'associait comme ça a été le cas avec.
Aucunement. Okay. Non.
Et pour le coup, j'allais dire, raconte-nous ta rencontre avec Adrien, si on peut dire ça comme ça, mais quand on est associé, on a un petit côté mariage aussi quand même.
Ouais, mais à 100%, écoute, je me pointe sur Startup Weekend, le premier mec avec qui je discute et plaisante un peu, c'est Adrien.
Ok.
C'est la vérité, c'est vraiment le premier gars. Mon idée étant sélectionnée parmi les 6 ou 7 sur lesquels on a travaillé dans le week-end, forcément, il joue à mon équipe ainsi que d'autres personnes.
Ouais.
Et je vois qu'à 1h du mat, quand sur les 7, on n'est plus que 2 ou 3, bah, y a tout le temps Adrien dedans, que le mec apporte des idées qui sont très, très pertinentes, et puis que humainement, ça match.
Ok, cool. Lui, il était venu pour trouver une idée, pareil. On va pas parler de lui tout le podcast, mais c'est l'idée, c'est de voir un peu...
Lui, il était venu parce qu'il était déjà sur un projet entrepreneurial.
Ouais.
Qu'il a vu que ça, lui était résident en Bretagne,
okay.
C'était du coup dans les environs et du coup, bah voilà, ouverture d'esprit, viens voir comment ça se passe.
Ok. Et alors, ça se passe comment après le Startup Weekend? Alors, à quel moment tu te dis, bon bah ok, on s'associe, est-ce que c'est déjà la fin du Startup Weekend? Est-ce que
c'est
une semaine après?
On fait partie des lauréats.
Ok, ouais.
Avec un jury en face qui est crédible, hein,
ouais.
Le fondateur d'une banque en ligne dont le nom m'échappe, mais c'est pas très grave, mais une grosse banque en ligne, des serial entrepreneurs, etc.
Ouais.
Et du coup, si ces mecs-là, ils nous disent qu'ils y croient,
ouais.
Eh ben nous, pourquoi on n'y croirait pas, quoi. Et partant de là, du coup, on se dit, ouais, on s'associe. Lui, il a quand même son autre projet. Je pense qu'il y a un mois et demi où il me dit qu'il est là, mais aussi sur l'autre, puis il verra, etc. Donc, de façon à rendre les choses claires, je lui dis, bah écoute, on se connaît pas trop, c'est vrai, viens passer 15 jours à Bordeaux,
ouais.
Viens passer 15 jours chez moi,
mm-hmm.
On va bosser sur le projet, on va apprendre à se connaître, et puis là, on voit si toi, tu restes sur ton projet ou si on y va à fond tous les deux. Et il est effectivement venu, je l'ai présenté à mes amis,
ouais.
Tu vois, tu passes du temps au quotidien, et du coup, tu arrives à beaucoup mieux cerner la personne, et à partir de là, oui, la confiance était gagnée, on s'est fait la répartition des parts,
on a
mis sur le papier la façon dont on avait fonctionné, et puis en avant.
Génial, c'est canon. Et quels sont les débuts? Déjà, enfin, l'autre question aussi que j'avais en tête, c'est est-ce que c'est vraiment au Startup Weekend où tu dis ok, c'est crédible ce que j'ai envie de faire? Est-ce que avant tu disais dans tous les cas j'y vais, dans tous les cas c'est mon idée, je pense qu'elle est bonne, voilà, go for it. Oui, la validation c'est vraiment ce week-end avec des personnes qui te disent en face de toi ouais ton idée elle est bonne, vas-y quoi.
C'est vraiment ça.
C'est vraiment ça.
C'est vraiment des référents qui te disent nous on y croit. Et à partir de là moi je me permets d'y croire aussi.
Ok, cool, super. Et les débuts avec Adrien, vous imaginez quoi au tout début? Parce que moi, comme toute boîte, ça évolue au fil des années. Vous vous dites quoi? Déjà, dès le début, on va être le leader européen de la location de vannes et de camping-cars, de particulier à particulier. Enfin, comment ça se passe au début, quoi?
Bah, le concept, c'est qu'on se dit que ça peut être hyper sympa d'être dans le voyage, ça peut être hyper sympa de mettre à profit... hyper utile de mettre à profit du matériel qui est sous-utilisé et d'en augmenter l'utilisation.
Mm-hmm.
Qu'on est dans le voyage. Alors, on imagine dans le premier BP, on ne dépassait pas les 400 véhicules, même dans les meilleures projections. Et du coup, on imagine aussi qu'on s'accordait un super voyage personnel de 3-4 mois par an pendant la saison morte parce qu'on se dit on travaillera que sur les périodes où les gens voyagent. Et on n'imagine pas que les gens voyageraient autant en hiver, d'ailleurs. Donc voilà, et on ne dépasserait pas 5 ou 6 personnes dans l'équipe dans le meilleur des cas.
Okay.
Donc ça, c'était la meilleure des projections.
D'accord.
Initiale.
À quoi? À 3 ans où vous étiez dit, c'était quoi le...
C'était à 5 ans, sans doute.
Ok, ouais. D'accord. Ok, c'est énorme, j'adore. Et je trouve que ça allait hyper vite. C'est quoi? C'est à partir de... J'ai vu qu'en 2013, vous faites x10 par rapport à 2012. Alors, c'est x10, c'était quoi? En chiffre d'affaires? Comment ça évolue?
C'est en nombre de locations, ceci.
Ouais, ok.
Et puis, du coup, ça suit aussi en CA et en volume d'affaires. Et après, le x10, c'est juste une validation du concept, puisque on était parti de 100 locations en 2012.
Mm-hmm.
Peut paraître beaucoup quand tu fais tout à la main et qu'il n'y a rien qui est automatisé et que ça te prend énormément de temps, mais finalement c'est rien du tout en CA. Donc x10 n'est que la confirmation du fait que oui, ça peut vraiment marcher.
Okay.
Mais on reste dans des volumes qui sont encore très très humbles.
Ouais. Et votre premier recrutement?
Notre premier recrutement intervient, donc on se lance en mai 2012.
Ok, c'est quand tu dis on se lance, c'est-à-dire que c'est...
Le service est lancé.
D'accord,
ouais.
Ok.
Ouais. En mai 2012.
Donc là, vous aviez déjà quand même des camping-cars, des trucs à louer. Enfin, vous aviez déjà des vannes, des camping-cars à louer.
On en avait 0 au 15 août.
Ok.
On en a 35 au 29 août. Et puis, il y a la première loc... 0, on en avait 0 au 15 mai,
ouais.
35 à fin mai, okay. Et les premières locks arrivent avant la fin mai, beaucoup plus vite qu'on les avait imaginés.
Ok, cool. Vous faites comment pour communiquer au départ ?
On le fait, du coup on avait lancé un blog déjà quelques semaines auparavant, ouais. Et puis tous les matins, moi je commence ma journée de travail avec des alertes Google sur véhicules de loisirs, camping-car, consommation collaborative, économie du partage. Et chaque article qui parle d'un de ces sujets, je me débrouille pour retrouver le nom de la personne qui l'a écrite s'il n'est pas spécifié, trouver mm-hmm. son contact personnel par LinkedIn, ouais. Facebook ou quoi que ce soit, ouais. Et lui écrire un petit chapitre en disant j'adore ton article, il est super, par contre il y a une référence que tu as oublié de noter, si tu veux bien avoir la gentillesse de faire la modification, inclus un lien dynamique vers jeloumoncampingcar.com.
Ok.
Et par rapport à ça, il y en a un sur 7 qui fait la modif, donc ouais. tu travailles ton SEO ouais. doucement, mais tu le travailles quand même.
C'est clair.
Et parallèlement, je sollicite l'aura du web sur ouais. Télématin qui présentait les startups. Je ne sais pas si elle est toujours dans ce même créneau. À l'époque, c'est la référence startup grand public et TF1, etc. Et en fait, 5 ou 6 jours après notre première lock, il y a justement Télématin qui nous fait un beau reportage, qui nous donne la chance de faire un beau reportage télévisé de 3-4 minutes mm-hmm. Qui viennent filmer. Donc moi, il faut que je trouve, et il nous demande absolument, on vient tel jour, trouvez-moi un départ sur Paris. Nous, on a 7 départs pour les 3 prochains mois qui sont bookés. Donc, donc voilà, on se débrouille avec donc les premiers propriétaires qui nous ont fait confiance pour monter quelque chose.
Okay.
Et là, il y a TF1 qui nous contacte le matin où je commence à tourner avec Télématin en disant, écoutez, on a un créneau là, si vous avez une log qui part dans l'après-midi sur Paris, on peut vous faire un sujet, mais si c'est pas aujourd'hui, c'est mort. Donc le propriétaire avec qui j'avais pris du temps, qui m'avait donné son temps,
ouais.
Très sympathiquement, il est toujours toujours inscrit d'ailleurs,
okay, cool. On lui dit bonjour,
sur le site, ouais, carrément. En fait, il nous avait réservé sa matinée, et je l'en remercie encore.
Ouais.
Et puis là, arrivé à midi, je lui dis et pour votre après-midi, ce serait possible aussi, s'il vous plaît. Et donc en fait, le premier reportage Télématin qui est tourné en intérieur de ce véhicule,
okay.
Avec, j'ai plus le nom de ce monsieur, mais avec ce propriétaire. Hyper sympa, et le reportage TF1, finalement c'est avec le même véhicule qu'on a déplacé de 200 mètres pour un grand un peu différent.
C'est énorme.
Mais voilà, tout, et ça nous a crédibilisé auprès de l'industrie, ça nous a apporté et du SEO et de la visite spontanée post-diffusion et crash, bien sûr, okay. du site.
Ouais. Ah ouais.
Mais tu vois, on s'est pas mal appuyé en fait sur les médias au début, puisqu'on a un service grand public et un service C2C.
Ok. Ah ouais, après le reportage, ça doit être, le crack du site, c'est énorme. J'adore. Ce genre de truc, tu te rends compte. Ok, bon là, il faut changer quelque chose, ça va. Est-ce qu'au moment-là, est-ce que tu te dis ça va. Enfin, bon, vous espériez que ça aille aussi vite, mais est-ce que vous aviez réalisé que ça pouvait aller aussi vite? Parce que j'imagine que ils vous ont donné une visibilité énorme.
Ouais. Et du coup, l'un amène l'autre. Ouais, une fois que TF1 parle de toi, les régionaux parlent de toi.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, ton SEO, lui, s'en trouve vraiment boosté quand c'est des beaucoup plus de sources, même si elles ont moins d'importance, mm-hmm. Ça a un vrai impact et on commence à monter en première page.
Okay.
Et à partir de là, en fait, t'as le trafic, l'activité qui commence. Vraiment bien. Par contre, tout seul, donc Adrien se concentrant sur le site, moi sur les opérations et la communication, et je me retrouve sur l'été 2012 à faire vraiment, vraiment, vraiment des journées de 18h30 où tu manges de la semoule pour pas t'éloigner, parce que c'est ce qui cuit le plus vite, pour pas t'éloigner trop longtemps de ton téléphone et ton ordinateur, et pas offrir une expérience trop mauvaise parce qu'on est un petit peu dépassé, même si les chiffres restent modestes.
Ouais.
Tout se faisant manuellement, rien de construit, rien d'automatisé, t'absorbes tout à la main et ça prend un temps d'un. Enfin, c'est hyper pas efficace, surtout pour faire.
Vous avez fait ça pendant combien de temps ?
On a fait ça surtout 2012, puis derrière, on a commencé à automatiser certains emails.
Okay.
Voilà, ça a toujours été en fait un travail, une ligne de crête sur laquelle on évoluait entre le succès, par contre, enfin, le succès. entre guillemets, ouais, hein, ouais, à notre manière, à notre mesure, mmh. toute modeste, mais à notre manière, oui, quand même. Mmh. C'est la plus belle version de ce qu'on avait pu imaginer ouais. qui arrivait. Et la qualité du service que tu rends. Ouais. Parce que si t'as du succès, mais que
derrière
tu délivres pas parce que t'es sous-staffé ou que tout se fait encore à la main, ou trop ouais. de choses en tout cas. Et ben voilà, entre la qualité du service rendu et le nombre de personnes à qui tu le rends par rapport à celles qui te sollicitent, voilà, c'est une ligne de crête où il okay. faut tenir le rythme.
Ok, bah clairement, parce que 18 heures par jour, ça, au bout d'un moment, c'est plus tenable, je crois.
C'était sur une période très courte, mais
ouais.
très intense.
Ouais, bah ouais, j'imagine. Et donc, le premier recrutement, ça a été sur quel poste ?
Décembre 2013.
Ouais.
Décembre 2013, on a fait une toute première levée de fonds hyper opportuniste, puisque c'est quelqu'un qui nous a sollicité de lui-même, et on lui a dit bah, écoute, oui, on veut bien doter 60 000 euros.
Qui était dans le secteur ou pas du tout?
C'est quelqu'un de la région bordelaise.
Ouais, alors, mais je veux dire, oui, alors top, mais après, est-ce que il connaissait le secteur de la location?
Absolument pas
du tout. Du camping?
Absolument pas du tout. Okay. Mm-hmm. Toujours est-il qu'avec cet argent, bah, on commence à pouvoir utiliser des outils payants,
ouais.
puisque notre capital initial était de 3000 euros hors taxe.
Okay.
Donc vraiment rien, pour ouais. faire les trois premières années,
oui.
ou les deux et demi en tout cas. Et du coup, avec cet apport, bah, on se permet de pouvoir enfin procéder à notre premier recrutement. Mm-hmm. Auparavant, on avait utilisé des stages non ouais. payants, puis des stages payants, mm-hmm. qu'on finançait par le CA généré par l'activité, mais on se payait pas... les fondateurs ne se payaient pas.
Vous êtes payé à partir de quand ?
On s'est payé à partir d'août. Bah, une fois qu'on a eu cet argent, on l'a eu okay. En juillet 2013, on s'est payé à partir d'août.
Ouais, okay.
Fin du chômage, tout était ouais, relativement bah, bien ouais. combiné.
Bon timing. Bon
voilà.
timing.
Et en fait, on embauche quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle pour me démarcher, qui est une Française qui est en train de faire un stage de fin d'études en Espagne. Mm-hmm. Elle veut me... Je sais plus, tellement ce qu'elle voulait me refourguer comme produit, comme service. Et, mais toujours ici, je lui dis, bah, écoutez, je n'achèterai pas du tout votre service. Par contre, j'adore la manière dont vous m'avez questionné. J'adore la manière dont vous avez contre-argumenté quand j'avançais une objection. Vous êtes doué. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Parce qu'on va lancer l'Espagne. On a besoin d'un responsable Espagne.
OK. Énorme.
Et du coup, cette jeune fille, je la salue également. Il s'agit de Julie Davara, qui est maintenant notre CEO,
ouais.
Et du coup qui est toujours dans l'aventure et plus à fond que jamais, et pourtant c'est une jeune fille qui est tout le temps à fond. Du coup, cette jeune fille, on lui dit bah viens, tu rejoins-nous pour ouvrir l'Espagne. Okay. Elle vient dans cet objectif là bien entendu au SMIC, dans des conditions où elle aurait pu avoir mille fois mieux ailleurs, mais elle a envie de vivre l'aventure.
Okay.
Sur les derniers jours, juste avant la fin de sa période d'essai, on va avoir nos invests et puis d'autres personnes référentes sur les marketplaces. Mm-hmm. Et on voulait aller en Espagne dès 2014, et au final ils nous disent non, c'est beaucoup trop tôt.
Ouais.
Consolidez ce que vous avez fait sur la France,
ouais.
Consolidez vos process. Finissez de construire vos outils d'automatisation du maximum de tâches qui apportent pas de valeur ajoutée
ouais.
à faire manuellement,
ouais.
et à partir de là vous pourrez commencer à aller regarder ailleurs, mais sinon vous allez vous défocusser, c'est
ouais.
pas encore, votre base n'est pas encore assez solide. On écoute ses conseils avisés, et effectivement bah on dit à Julie juste avant la fin de la période d'essai, désolé, on va reculer ça plus tard, est-ce que tu nous suis pour jusqu'au moment où on sera prêt à aller en Espagne.
Ouais. Donc, vous lui dites, viens en France pendant un an.
Elle était déjà en France.
Okay.
Pour le premier mois, elle était déjà en France.
Ok, d'accord.
Et donc, bah, elle accepte de jouer le jeu et elle fait le service client et elle fait tout ce qu'il y a besoin de faire. Et c'est un an après que finalement, on a pu aller en Espagne et elle a pu prendre le poste qui lui était promis un an auparavant.
Ok, cool. Et c'est bien, et on en reparlera, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs et de monde qui gravitent autour de Yescapa. Enfin, c'est en 2015, février 2015, vous faites une levée de fonds un peu plus importante que les 60 000 euros.
Voilà, c'est ça.
Auprès de très beaux investisseurs. Est-ce qu'ils vous accompagnent toujours aujourd'hui, j'imagine? Ou est-ce qu'ils vous aident toujours aujourd'hui? Parce que moi, je trouve, enfin, voilà, le côté rencontre, le côté partage, mentorat aussi, c'est, voilà. Est-ce qu'ils continuent de vous aider? Comment ça s'est passé déjà? J'ai plein de questions en même temps. Comment ça s'est passé déjà au tout début? Blablacar, entre particuliers, Smartbox, les trois vous suivent. Comment ça se passe?
Eh bien, écoute, comment ça se passe pour le susciter ou comment ça se passe après ou...
Tout. Je veux tout savoir. Non, comment ça se passe déjà? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Est-ce que vous vous dites, OK, là, on a besoin de cash pour accélérer? Parce qu'on a besoin d'accélérer.
Effectivement, on voit que ça prend, mm-hmm. Puisque tu disais 1x10 de 2012 à 2013, mais après 1x2,5.
Ouais.
Et voilà, et c'est vraiment une bonne traction. Et on arrive à faire ça en cramant finalement assez peu d'argent.
OK.
Donc on sait qu'on tient quelque chose, du coup on fait quelques concours de start-up national,
ouais.
Et, ou pas d'ailleurs, on a fait une aussi européenne.
Okay.
On en gagne une relativement importante, où là on pitchait devant du beau monde,
mmh.
et à partir de ceci qui a été relayé derrière, on a pu avoir accès à quelques-unes de ces personnes. Et on était très impliqués dans WeShare, qui était un collectif qui a évolué mais qui est toujours bel et bien existant, qui est porté de main de maître par Samuel Roumeau.
Okay.
Salut Samuel. Et voilà, on est quand même hyper impliqué aussi dans la consommation collaborative. Du coup, de là, j'ai l'occasion parfois de croiser Frédéric Mazzella ou de croiser Paulin de Menton de Drivey ou d'autres, La Ruche qui dit oui, voilà, d'autres acteurs de l'économie collaborative qui nous... Et c'est à partir de ces briques qu'on construit une première relation qui nous renvoie vers certaines de leurs relations qui pourraient être aussi intéressées et amener quelque chose au projet.
Mmh.
Et du coup, là-dessus, on réunit 450 000 euros sur notre première levée de fonds.
Ouais.
Okay. Chacun nous apporte beaucoup, on va dire, dans l'année, voire les 2 ans qui suivent.
Mmh. Okay. Donc 2015-2017 quoi, en gros.
Voilà, parce que nous-mêmes on a tout à apprendre. On est une équipe où chacun est pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il n'est pas expert dans son domaine.
Okay.
Et là, avoir des conseils extérieurs sont très intéressants.
Là, tu as accéléré de ouf quoi.
Et de professionnaliser aussi, faire les choses mieux.
Ouais.
Avant, sinon tu utilises ton bon sens, mais ton bon sens avec les bons tips et la bonne organisation, c'est pas mal non plus. En plus, ça marche mieux. Alors, est-ce qu'ils nous suivent toujours? On a certains qui ponctuellement vont nous être très utiles quand on s'est internationalisé. Mm-hmm. Par exemple, il y avait des challenges techniques qui étaient ardus.
Okay.
Et partant de là, par exemple, Frédéric Mazzella nous a envoyé vers la bonne personne au niveau technique chez Blablacar,
okay.
qui nous a... son intervention a été vraiment facilitatrice, mm-hmm. et a fait d'un énorme problème quelque chose de résolu en une quinzaine de jours. Après, on garde des conseils. Par exemple, Stéphane Romanizin, d'entre particuliers, c'est quelqu'un qui est... son épouse est italienne, il est très bien implanté en Italie. Donc, quand on a ouvert l'Italie, il nous a mis sur des contacts qui nous ont permis de bien plus vite comprendre comment ça pouvait fonctionner en Italie et comment il fallait agir pour que ça ait une chance de marcher.
Mm-hmm.
Voilà, donc c'est ponctuel. Après, on a une personne qui s'appelle Thierry Van de Val de Win Capital, qui est aussi associé chez Isaï, qui est quelqu'un qui, à titre personnel, a investi dans une trentaine de marketplaces, avant tout peer-to-peer,
okay.
qui avait vraiment suivi, accompagné et participé au projet Drivey.
Mm-hmm.
Et lui est à notre board et son regard nous est extrêmement précieux parce que il a vu tellement de dossiers passer, tellement de projets essayer d'aborder un problème d'une façon ou d'une autre,
mm-hmm.
qu'il a ce recul qui nous permet d'éviter de faire une boulette avant de comprendre que c'était l'autre option qu'il fallait choisir. Et lui, on a, voilà, avec lui, on travaille vraiment dans la durée et de façon très pérenne, très, très régulière. Okay. Les autres, bah, c'est au coup par coup, ouais. Selon leurs propositions et nos sollicitations.
Ok, cool, canon. C'est génial d'être aussi bien entouré. Et donc en 2015, l'Espagne, vamos a España, comment ça se passe, le premier pays donc déjà le marché sur place, est-ce qu'il est hyper différent du marché français?
Alors il est totalement différent, ouais. Puisque je ne crois pas qu'on ait déjà pour l'instant eu l'occasion de dire qu'est-ce que c'était.
Oui,
quelle était l'activité d'Iescapa?
Oui, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure rapidement de la location de particulier à particulier, de van et de camping-car, mais excellente remarque. Alors, au bout de 30 minutes, alors qu'est-ce que Iescapa, Benoît Panel?
Bah, écoute, pour te donner la différence entre le marché français et le marché espagnol, ouais. Déjà, je vais te dire ce qu'on fait. Ouais. Iescapa, c'est une marketplace dédiée au road trip. Et nous, notre but, c'est de donner accès au plus grand parc en Europe de camping-car, van et fourgons aménagés à louer. Mmh. C'est un parc qui va être constitué avant tout de véhicules de particuliers, mais maintenant on commence aussi à avoir des petits professionnels qui proposent leur flotte sur Iescapa.
Ouais.
Et on va être le spécialiste du road trip sur l'Europe. C'est vraiment ça notre focus.
Ok.
On va avoir des gens de 98 nationalités qui ont voyagé avec nous sur 2019, un peu plus de 400 000 personnes qui sont membres du site, et on est persuadé que c'est qu'un début et qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, parce que on a tous une bonne raison de voyager en camping-car, en van ou en fourgon. Vous le savez ou vous le savez pas, mais testez et vous verrez que vous allez apprécier.
Ouais. Ok, parfait. On fait la présentation de demi-heure après, c'est nickel.
Maintenant qu'on sait quelle est l'activité, je reviens sur ta question sur la différence de marché. La France est le deuxième pays européen en termes de flotte de véhicules de loisirs.
Ouais.
Le premier étant l'Allemagne.
Ouais.
Donc tu vas avoir 485 000 véhicules, par exemple, en circulation en France, versus 30 000 en Espagne.
Ah ouais. Ah oui, il y a une légère différence. Ouais.
Voilà. Et après, tu as des différences réglementaires. Enfin. Un van va pas être enregistré, compté dans la liste des 30 000 véhicules en Espagne. Donc en fait, on imagine qu'il y en a plus 120 à 150 000.
Okay.
Tu vois, tu as des petites différences comme ça dans les grands chiffres communiqués par les ministères du transport respectifs. Mm-hmm. Malgré tout, le potentiel, il a rien à voir. Mm-hmm. Par contre, on parle, dans le cas de la France comme dans le cas de l'Espagne, des deux pays, principaux pays touristiques en Europe.
Ouais.
Et en ça, on sait qu'en potentiel de demande, oui. Okay. Il y aura largement de quoi bien travailler et de quoi servir
communauté
qui reste à construire sur l'Espagne, mais on est persuadé qu'on arrivera à la servir.
Ok, ouais, parce qu'en fait c'est ça, à la fois vous avez la partie le particulier qui a un van ou un camping-car à louer, vous aujourd'hui vous devez encore aller en chercher, ou c'est des gens qui viennent à vous? Ou vous les avez déjà tous en France?
Les deux, mon capitaine.
D'accord.
Il y en a... Enfin, les gens viennent à nous spontanément. On fait plus de la prospection.
Ouais.
Mais par contre, on fait beaucoup d'efforts pour qu'ils nous trouvent, pour qu'ils nous trouvent pertinents et justes dans notre approche et dans nos réponses. C'est l'un nourrit l'autre. Tes efforts et les gens que tu croises pas, bah ils ont entendu parler de toi parce que quelqu'un à qui tu t'es adressé leur en a parlé.
Puis après, il y aura une communauté hyper forte entre des gens qui font du camping-car et du van, j'imagine.
Alors oui et non. En moyenne, parmi nos utilisateurs, ils connaissent tous 5 propriétaires.
Ok.
Mais tu vois, que 5.
Oui, non, c'est vrai.
Mais déjà 5, et sur lesquels tu peux t'appuyer pour nourrir ta croissance.
Ok. Mais donc je disais ça parce que, en fait, il n'y a pas juste ce qu'on pense à France et Espagne, mais en fait, votre champ d'action, c'est aussi pour toutes les personnes qui vont le louer et qui sont totalement en dehors de ces pays-là. Comme tu disais, vu que c'est les deux pays les plus touristiques en Europe, le but, c'est... votre site a été fait en anglais aussi, j'imagine, rapidement, pour aller choper les touristes étrangers qui viennent en France et en Espagne.
Tout à fait.
Et il y a toute cette logique-là, en fait, d'aller chercher les gens qui vont les louer. Et c'est pas forcément... Et quand tu commences au début avec un marché français, t'es clairement pas que sur des Français, quoi.
Alors initialement, si on était que sur les Français, tout cet effort de traduction, parce que ton site il évolue en permanence, donc ça demande vraiment une maintenance. Donc au début, on était qu'en français. Après, que en français, que en espagnol. Okay. Et rapidement, effectivement, on a fait dès qu'on a pu, en fait. Hein. Ouais. C'est une course contre la montre à chaque fois entre ce que tu as envie de faire et les idées ne manquent pas. Ouais. Et puis ce que tu peux faire et bien faire, parce que ça, notre règle de conduite, c'est aussi de lancer des choses que quand elles sont bien faites.
Okay.
C'est ta réputation qui est en jeu. Clairement. Et ta crédibilité et ta pérennité si tu lances des choses à moitié faites.
Mm-hmm.
Donc oui, l'idée on l'avait très vite. Après le mettre en place, c'est dès qu'on peut le faire bien.
Ouais, ok, ça marche, top. Vous changez de nom en 2016 pour Yescapa. Pourquoi? Pour avoir un aspect plus européen, plus international, plus.
Écoute, on avait.
C'est vrai qu'en espagnol, non, c'est en espagnol. C'était quoi déjà le nom?
Alors voilà. Avant le changement pour Yescapa, en France, on était Je loue mon camping-car.
Ouais.
En Espagne, on était Alquilar mi autocaravana.
Okay.
On était traduit et on avait déjà quelques véhicules en Suède. Par contre, on n'avait pas l'assurance peer-to-peer.
Okay.
Qui devait être Ikmar minus bil, qui était la traduction littérale. Et en fait, quand tu vois, parce que on fait une enquête annuelle auprès de nos utilisateurs, quand tu vois que ton utilisateur, il a loué une fois auprès d'un propriétaire français, l'année d'après il va louer auprès d'un propriétaire espagnol ou suédois,
ouais.
Faut bien lui faire comprendre que c'est pas une boîte différente à chaque fois.
Mm-hmm.
Et là on s'apprêtait à lancer l'Allemagne.
Ouais.
Et c'était voilà, le moment où jamais finalement que d'unifier tout ça.
Okay.
Et de faire passer le message que la qualité de service qu'on vous a donné sur votre première expérience, vous la retrouverez même au départ d'un autre pays. Ouais. Ce sera la même société et avec la même promesse de qualité.
Ok, parce que les conditions sont pareilles. Qu'on loue sur Yescapa, qu'on loue en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, les conditions sont pareilles. En termes d'assurance, j'imagine que tout est pareil.
Ah, il peut y avoir des micro-nuances en termes de montant de franchise d'assurance, mais les process et le soin qui vous est apporté est identique partout.
Okay. Ça marche. Votre partenaire assurance, c'est le même dans tous les pays ou
Alors, malheureusement, l'Europe de l'assurance n'existe pas.
Okay.
On n'a pas à date de partenaire assureur qui soit capable de nous suivre sur tous les pays.
Okay. C'est la MAIF, hein, c'est ça?
Alors, sur la France, effectivement, c'est MAIF avec qui on a une vraie relation de partenariat et même d'association.
Oui, parce qu'en 2016, ils ont un petit peu investi dans la boîte.
Voilà, tout à fait. Donc, ils possèdent 28% du capital de la société.
Okay.
Et du coup, c'est bien plus que des assureurs, c'est des vrais partenaires. et après, en fonction des pays, on essaie de trouver le partenaire assureur qui nous propose les bonnes garanties avant tout et les bons process derrière de suivi et de gestion des sinistres qui pourront et qui arriveront.
Ok. Et là, à chaque fois dans chaque pays, parce que tu parlais tout à l'heure en Espagne, en Italie, tu connais des gens qui vont te faire rencontrer d'autres personnes pour faciliter un peu tout. Est-ce que ça a été pareil sur, parce que maintenant vous êtes dans 7 pays, est-ce que c'était pareil pour la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni?
Non, aucunement.
Vous y allez en mode vous parlez from scratch quoi?
Ouais, from scratch.
Ok. Et ça se passe comment?
Eh bien, écoute.
Je crois qu'il y a une petite histoire avec l'Allemagne, donc c'était un petit peu compliqué la première arrivée.
Ouais, tout à fait. Donc,
tu peux nous en parler,
serait-ce. En fait, l'Allemagne, on vient. Notre première levée en 2015, donc auprès de Business Angels, pour un peu moins de 500 000 euros, c'était le projet qui leur a été présenté. C'était, on a fait un début de preuve sur la France.
Mm-hmm.
Et on souhaite exporter le concept. Donc, deux objectifs, se renforcer sur la France et démarrer sur l'Espagne.
Mm-hmm.
Un an après, on avait vraiment un beau lancement sur l'Espagne qui était très très prometteur et on pensait que c'était des fondations assez solides pour pouvoir directement ouvrir encore un autre marché.
Ouais.
Et du coup, l'Allemagne, bien entendu, nous paraissait extrêmement intéressante dans la mesure où c'est le premier utilisateur de véhicules de loisirs en Europe, plus de 800 000 véhicules en circulation.
Ouais.
T'as aussi des sondages qui te disent que près de 40% des Allemands veulent faire un séjour
Donc, y a un marché énorme.
En véhicule de loisirs dans les 12 prochains mois. Bon, voilà, y avait, sur le papier, il y a tout.
Mm-hmm.
Il y a tout pour que ça cartonne. C'est avec le projet d'ouvrir l'Allemagne puis les autres pays, enfin vraiment de s'internationaliser au-delà du test espagnol, qu'on a fait notre deuxième levée de fonds sur laquelle donc Maïf est rentré au capital.
Mm-hmm.
L'Allemagne, on a On a changé le nom. D'où est venu Yescapa. La recherche du naming, c'était un chantier de 6 mois.
Ok.
6 mois, pourquoi? Parce qu'on avait trouvé un super nom qui était Vanago. Tu vois, Wanago, ouais. Vanago, moi, ouais. Je trouve ça super. Donc génial, on parle là-dessus, tout est libre, sauf un petit site, une page Facebook, ouais. Un petit site en Ukraine.
Ok.
Ouais. Vanago.uk.
Ok, ouais.
Ok, donc on va appeler les. Et c'est un groupe de musique qui fait des mariages.
Ok, bon,
ça. Donc on les appelle, on se met d'accord avec eux sur un montant.
Ah ouais, vous étiez allé loin dans le.
Tout à fait symbolique, enfin, ou tout à fait abordable en tout cas,
ouais.
Pour récupérer ce nom-là. Les mecs nous disent qu'en fait, c'est super, fonctionnons ainsi, mais notre webmaster est décédé il y a 18 mois. Okay. C'est le seul à avoir les codes du site et du coup, on ne peut pas vous le rediriger.
Mais non. C'est pour ça que vous avez changé de nom.
Et du coup, mince, partant de là, on est parti pour un chantier de 6 mois pour aller retrouver un nom qui soit libre, un nom qui corresponde aux valeurs qu'on voulait véhiculer.
Et où le mec du web n'est pas mort, quoi.
Et du coup, Yescapa, c'est parce que, allez, on part en Yescapade.
Ouais.
Let's escape.
Ouais.
Si nos escapamos. Et ouais. Ça marche un peu dans toutes les langues pour cette notion d'évasion avec le petit côté positif du yes devant.
Ouais. Ah, c'est énorme, j'adore l'histoire du Vanago, je trouve ça génial.
Oui, non, on va le deviner, moi je la trouve marrante aussi, c'est pour ça que je la partage.
Ah ouais, bah merci, elle est top. C'est énorme, comme quoi les noms de boîtes parfois. Ah, j'adore. Après, vous avez, on va aller un peu plus loin, mais il se passe plein de choses chaque année.
Tu me parlais de l'Allemagne difficile.
Ouais, oui, bah ouais, merci. Je crois qu'il y en a un des deux qui suit.
Je rebondis dessus parce que vraiment, ça peut être utile à tout le monde.
Ouais.
Donc, si j'ai fait une digression en disant qu'on venait de faire une levée qui était de 3 millions d'euros juste avant de se lancer sur l'Allemagne. Donc, c'est la première fois qu'on a vraiment des moyens.
Ouais.
Parce qu'avant, on a tout bootstrappé, ouais. En se payant pendant très longtemps très mal. Voilà. Donc, c'est la première fois où on peut enfin agir comme on aurait aimé agir. Vu le potentiel, on se dit, on va pas hésiter, on va pas lésiner, mm-hmm. on va aller vite.
C'est vous qui vous dites, on lève 3 millions ? On demande 3 millions ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Ouais. Okay. Ouais.
Et vous avez en cherché un petit peu moins, puis c'était sur souscrit, et tant mieux.
Ouais, ça marche.
Du coup, sur l'Allemagne, on fait plein de choses qu'on fait plus maintenant. On y va à fond les ballons tout de suite.
Ouais.
T'as des règles Google sur place qui font que les gens sont énormément moins enclins à de l'échange de liens ou y compris la presse à te sortir un article avec un lien en dur.
Okay.
Donc on travaille finalement le référencement, on le travaille en même temps qu'on pousse le SEA.
Ouais.
Et finalement on génère de l'activité avant tout parce qu'on paye ses visites.
Okay.
Et notre métier est un métier où les marges sont faibles pour proposer le meilleur tarif aux voyageurs final.
Ouais.
Cet équilibre, faut pas qu'on le casse.
Ouais.
Faut pas qu'on surpaye notre visiteur et qu'on surpaye le prix d'une réservation confirmée. Donc on fait cette erreur-là en se disant que la machine elle va se mettre en route facilement. En fait, les Allemands ils font pas facilement confiance à une société non allemande.
Ok. Ça, sur le marché allemand, vous aviez des gens qui vous donnaient quelques tips ou...
On en avait pris auprès d'autres sociétés auparavant. On nous avait dit que c'était très dur.
Ouais.
On avait dit que sur l'Allemagne, de nombreuses sociétés françaises s'étaient cassé les dents.
Ok.
On confirme, c'est très dur. On confirme, c'est très dur. Et puis, cette stratégie de vouloir aller trop vite... même en y mettant les moyens, c'est pas la bonne.
Okay.
Faut être patient, faut aller travailler et découvrir les Allemands, tes concurrents, ton écosystème, et imaginer aller vite après une longue période d'apprentissage.
Okay.
Mais y aller tous azimuts en Espagne, ça pourrait fonctionner.
Ouais.
Voilà, chaque nouveau lancement nous a aussi appris à mieux jouer le coup. Et là, franchement, sur l'Allemagne, bah, on s'est pris un petit peu une claque. Et, et c'est seulement maintenant qu'on est en train de faire de vraies avancées sur place. Et que nos amis allemands nous font confiance dans des proportions qui sont de plus en plus intéressantes. Mais clairement, là, c'était notre première vraie bâche.
Ok, ça marche. On veut y aller avec les trop gros sabots et on se prend une petite baffe dans la gueule, quoi. Et parce que en termes de concurrence, ça, on n'en a pas trop parlé. Vu que l'Allemagne, il y avait peut-être un gros concurrent aussi sur place, non? Parce que si le marché était beaucoup plus développé.
Alors sur l'Allemagne, en fait, moi je considère que nos concurrents, c'est un, toutes les solutions de vacances.
Ouais, ok.
Quand tu as du temps libre, tu choisis d'aller avec Escapa. Tu choisis d'abord éventuellement d'aller pour un voyage lointain, d'aller voir ta famille, d'aller chez des amis ou de faire un road trip. Si tu fais un road trip derrière, il faut que tu choisisses de le faire à l'hôtel, avec ta tente ou en van fourgon camping-car.
Ouais, il y a un filtrage qui est énorme avant.
Voilà, ouais.
Ta vacance tout en haut et après, piou.
Ouais, mais notre du jeu, c'est qu'on arrive finalement à être un réflexe de vacances parmi les 3-4 options auxquelles on peut penser, qu'on soit dans ces 3-4. Nous, c'est ça notre objectif. Pour tous les Européens. C'est ça le but du jeu. Et puis derrière, si tu choisis de le faire en road trip et via un véhicule, tu choisis de le faire avec Escapa. Ce qui veut dire que nos concurrents, c'est tous les prestataires te permettant de louer un véhicule de loisir. Et après, parmi ceux-là, il y en a quelques-uns très rares qui font de la location entre particuliers. En France, on avait 6 à 7 concurrents quand on s'est lancé en 2012. Il y en avait un qui était sérieux, qui faisait vraiment les choses bien. Et après, il y en avait 5 ou 6. Bon, c'était, savait qu'on y arriverait au moins à se mettre à leur niveau. Et puis, ce concurrent sérieux, n'a pas pu poursuivre son activité extrêmement longtemps. On a un concurrent en France qui s'est lancé simultanément en même temps que nous. On s'est retrouvé quand on passait devant le comité de direction du Première Assurance qui nous avait fait confiance, qui était Massif. Ils passaient le même jour, ils avaient le même contrat au même moment. Donc on a un concurrent en France qui est consistant, même si on est toujours très largement devant. On a l'industrie en France, un des groupements de concessionnaires qui représentent à peu près 60% des véhicules vendus en France, qui ont lancé leur propre marque.
Ah ouais, chaud.
pas tellement. Ce qui est chaud, c'est la façon dont certaines personnes ont pu nous faire croire qu'elles étaient intéressées pour s'associer, pour nous pomper toutes les idées et lancer ça derrière. Ça, c'est chaud.
D'accord. sympa.
Mais après, c'est le jeu. Et puis, les résultats, chacun sa méthode et... Et du coup, ça ne nous empêche pas d'avancer, en tout cas.
Ouais, ok, top.
Et en Allemagne, on avait un concurrent. Effectivement, on voulait aller vite pour ne pas lui laisser prendre trop d'avance. Et c'est quelqu'un qui a vraiment bien avancé sur l'Allemagne. Par contre, 99% de son CA, il est allemand. Okay. Donc nous, on a parmi les centaines de sociétés qui vont proposer de la location de camping-car van fourgon, nous, on est le seul qui aura une dimension européenne. On est le seul qui aura cette taille de flotte. Et c'est l'asset sur lequel on veut construire demain. Et on est le seul aussi à disposer d'une communauté de la même manière européenne, répartie sur différents pays, et qui est maintenant de 400 000 personnes.
Ok, énorme. C'est quoi votre répartition de CA par pays? C'est la France qui vous rapporte le plus aujourd'hui ou...
Écoute, on était sur 2019, on était à un peu moins de la moitié France, un peu plus du quart Espagne. Et les autres pays entre 5 et 7% du total.
Ça reste la France.
Sachant qu'en fait, l'importance de chaque pays est comparable à son antériorité.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Et ce qui est le challenge des nouveaux pays, c'est de rester à 7-8%. D'un tout qui grossit. Et du coup, ça veut dire que le challenge de la France, c'est de ne pas perdre en vitesse de croissance alors que tu es sur une assise plus importante. Et si ça se passe, si on atteint nos objectifs avec tout le monde qui fait le beau, qui tous les pays qui font le bon qu'on espère pour eux cette année, ce sera parfait.
Ok. C'est quoi le bon que vous espérez pour eux cette année ?
Écoute, cette année, notre objectif, il est de faire un peu plus de 50% de croissance.
Ok.
Sachant que sur 2019, on clôture avec 90% de croissance.
Ok.
Donc, on part d'une base un peu plus consistante que l'année d'avant.
Oui.
Et du coup, l'effort attendu, on se dit que faut qu'on voit, voilà.
Ouais.
On vise haut, mais on vise réaliste aussi. Et voilà sur quelle base on part.
Ok, cool, top. Et vous diversifiez pas mal aussi, parce qu'en il y a 2 ans, vous avez créé Yescapa Occasion. Pour faire de la mise en vente de véhicules. En fait, l'idée, même, j'ai vu le blog aussi, je trouve hyper intéressant parce que ça regroupe plein de trucs sur le camping-car, sur le voyage, des conseils. C'est ton équipe qui part faire des voyages en camping-car, qui prend des photos et qui conseille pour telle ou telle région. Ou c'est des...
Alors, ça peut être notre équipe.
Ouais, okay.
Donc, faut savoir que tous les membres de l'équipe ont un crédit d'utilisation du service de 1000 euros.
Ok, par
comme
an
ça, ouais. Okay. Comme cool. Ça, tout le monde sait de quoi il parle.
Ouais.
Donc, effectivement, ceux qui ont envie de partager quand même leur moment très personnel reviennent, ceux qui aiment la photo aussi, etc., reviennent avec un reportage. Mais sinon, c'est beaucoup de tout simplement les membres de la communauté. Hein. Si tu regardes chaque véhicule qui est sur Yescapa, tu cliques sur le véhicule, tu auras le descriptif, puis derrière, de la même manière que tu as les avis qui sont laissés par les précédents locataires, les précédents locataires laissent aussi, ou en tout cas on les y invite et non d'entre le font, les photos qu'ils ont prises pendant leurs escapades. Donc en fait, t'as les photos du véhicule bien présentées par un jour de soleil quand tout est bien rangé, par le propriétaire qui met en ligne son annonce. Mais t'as aussi les photos
quand il pleut, quand c'est le bordel,
quand il pleut, quand c'est le bordel, puis des vrais gens pendant leurs vraies vacances.
Ouais.
Et il y a une dimension de vécu qui moi je trouve manque sur un Airbnb par exemple.
C'est sûr. T'as que le beau et
voilà, et on avait pris cette idée d'un concurrent d'Airbnb chinois qui invitait les locataires à prendre des photos du vrai logement quand il n'est pas hyper bien mis en valeur.
Ouais.
Et dans la mesure où on est dans le road trip, dans le voyage, je trouve ça va hyper bien, quoi. Ça va hyper, hyper. Ça incarne en fait ce que toi tu vas pouvoir faire de ce véhicule.
Carrément.
Au-delà de la belle photo conditionnée.
Avec le coucher de soleil, la belle plage.
Lors du dépôt d'annonce.
Ok, c'est canon ça. Et donc, sur Yescapa Occasion ?
Écoute, en fait, c'est simple. Hein. Nous, on a un peu plus de 7500 véhicules actuellement qui sont actifs. Pour nous, un véhicule actif, c'est des conditions très, très, très claires, nettes et précises. Donc, c'est pas des véhicules. On sort pas ce chiffre-là pour sortir le plus gros. Hein, sinon, t'as 23 000 en tout et pour tout depuis le début de Je loue mon camping-car qui sont inscrits. Je fais 7500 actifs, c'est de vrais véhicules disponibles à la location et avec des expériences qui donnent une qualité suffisante pour qu'elles restent disponibles.
Okay. Hein,
nous, on est là pour apporter satisfaction aux deux parties et c'est notre seule manière d'avancer et d'être pérenne. Donc, on est vraiment rigide sur les véhicules qu'on propose à la location. Cette communauté de propriétaires, elle s'adresse à nous quand ils ont un projet d'achat. Qu'est-ce que je dois acheter comme véhicule et c'est quoi les revenus sur lesquels je pourrais compter, parce que moi ça va me permettre d'accéder à mon projet. Si je peux pas envisager de le louer, je peux pas accéder à mon projet. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont les poches pleines, mais il y en a beaucoup pour qui le budget est contraint et qui nous indiquent que sans les revenus locatifs, ils passaient pas à l'acte.
Okay.
Donc, petit message à toute l'industrie du véhicule de loisirs, nous sommes vos meilleurs alliés pour développer ce secteur.
Le message est passé, parfait.
et du coup, ces gens-là donc nous demandent comment je peux trouver un véhicule, lequel je dois choisir pour qu'il se loue bien, dans ma région, qu'est-ce qui est demandé, etc. Et deux, mon véhicule, je souhaiterais le renouveler. Est-ce que vous savez où je pourrais le revendre Donc d'un côté, on a des futurs acquéreurs qui s'adressent à nous, de l'autre côté, on a des futurs vendeurs qui nous demandent conseils. bon, bah, nous, c'est tout naturellement qu'on se dit, si on arrive à les aider à apporter de la plus-value pour résoudre ce pain point à l'achat ou à la vente, bah, finalement, un véhicule, quand il quitte la plateforme, c'est bien souvent parce qu'il est vendu.
Ouais, ok.
Donc, on arriverait à éviter qu'il quitte la plateforme. Et puis, en même temps, on rendrait service à celui qui en cherche un, si on apporte un service à valeur ajoutée sur la recherche de son véhicule et sur la sécurisation d'un échange entre particuliers ou, pour te donner des chiffres, sur la France par exemple, tu as 25 000 camping-cars neufs qui sont achetés par an versus 70 000 d'occasion.
Okay.
Sur ces 70 000, tu en as 55 000 qui ne sont pas vendus par une concession. Une concession, elle va vérifier le matériel, elle va t'apposer sa pastille comme quoi tout a été checké et t'as une sorte de tiers de confiance, de professionnel. Tu sais sur quoi, sur quelle garantie tu as sur le véhicule que tu acquiers. Sur les 55 000 véhicules loués entre particuliers, où t'es un mécanicien professionnel ou avec une super compétence personnelle en mécanique, ou t'es comme 99,5% des gens, pas du tout armé pour juger de la qualité d'un bien que t'achètes. Et voilà, et c'est là où on s'est dit, on va résoudre un sujet pour notre communauté de propriétaires, tenter en tout cas du mieux qu'on peut de le résoudre, et deux, apporter une plus-value à tous les futurs acteurs, tous les futurs acheteurs, tout en... S'ils nous trouvent au moment où ils achètent le véhicule, eh ben ce sera aussi le bon moment pour leur parler de la possibilité peut-être d'acheter celui qui leur font vraiment envie plutôt que celui pour lequel ils ont l'argent dans le compte, en leur parlant des revenus locatifs qu'ils pourraient faire avec.
Ok. Voilà. Okay, non. C'est énorme. Et donc là, tu es parti d'une demande client.
Ouais.
Comment tu réagis la première fois que tu as quelqu'un qui te demande tu conseilles en fait au début, c'est quoi, c'est un conseil, et à force d'en avoir 10, 100 personnes qui viennent te demander, tu dis faut créer une offre là.
Ouais, c'est vraiment une question extrêmement récurrente. Tous les futurs propriétaires, tous malheureusement non,
mais on
a vraiment de très nombreux appels entrants sur quel véhicule je dois acheter, est-ce que vous pourriez m'orienter, comment je le vérifie, j'en ai vu un dans telle ville, comment je sais qu'il sera fiable. Et de l'autre côté, à chaque fois qu'un véhicule quitte la plateforme, on interroge pourquoi il quitte la plateforme. Dans 9 cas sur 10, plus que ça d'ailleurs, 93%, c'est parce que je le revends, pas parce que je suis insatisfait, parce que je le revends, et si j'en rachète un d'ailleurs, je me réinscrirai.
Ok.
Et voilà, donc il y a un pain point et il faut le résoudre.
Ouais, carrément. Bon, bah top.
Tentez deux, en tout cas.
Ouais, tentez deux. Et en 2019, vous avez fait deux rachats, location camping car de particulier.com et le concurrent espagnol, Alehavan, si je le prononce correctement.
Bravo pour l'accent. Bravo pour l'accent.
Et comment ça se passe, les rachats? Est-ce que là, vous êtes accompagné ou pas du tout
Écoute, sur le concurrent français, on n'est pas du tout accompagné. C'est un des 7 concurrents qui était en place quand nous, on s'était lancé. La personne nous a contacté de manière spontanée. Enfin, on a pris l'initiative. Les choses vont pas bien depuis assez longtemps. Il y a une petite flotte quand même à récupérer. Mais... finalement pas grand chose d'autre. Donc on fait ça entre nous assez simplement, et c'est toujours bienvenu, mais c'est pas un coup qui nous fait vraiment bouger décisif pour nous.
Vous rachetez une flotte de combien?
Alors tu avais déjà les deux tiers de ces propriétés inscrits qui étaient inscrits chez nous.
Ok.
À côté.
Oui, donc c'est pas un rachat du...
Voilà, non, on rachète les liens qui les ramènent vers lui. Par contre, comme c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'antériorité, ça nous aide sur le SEO.
Ouais,
mais finalement, non, c'est pas l'opération du siècle, même si elle est toujours très bienvenue.
Oui.
Sur le concurrent espagnol, en fait, c'est des gens avec qui on... Bien sûr, on se connaît, on se suit, on se parle tous les ans. Et eux, en fait, voient que, ils gagnaient la bagarre au début sur l'Espagne. Après, on est resté un peu touche-touche. Finalement, ils voyaient qu'ils étaient en train de perdre la partie. Donc, Ils sont venus nous voir en nous proposant de procéder par étapes sur un calendrier et qui, eux, leur permettaient de remonter un projet, de commencer à construire, de faire les choses proprement, de commencer à construire un projet sur lequel maintenant ils sont à 100%.
Okay. Qui n'a rien à voir avec le camping.
Qui n'a rien à voir, okay. C'est de la brasserie de la brasserie bio dans le Pays Basque.
Canon.
Ils se sont mis là-dessus finalement. Mais là, ouais, c'est très intéressant pour nous puisque c'est un tiers de la flotte espagnole qui grandit d'un coup. C'était notre seul concurrent vraiment prépondérant sur l'Espagne. C'est extrêmement bien relayé dans les médias espagnols. Plus le travail vraiment de qualité qui est fait par la country manager Espagne et par la team Espagne. Vraiment sur l'Espagne maintenant on est solide grâce à ça.
Ok, cool. Et donc plus trop, enfin s'il y a encore des concurrents j'imagine quelques-uns, mais globalement là vous êtes leader, enfin vous êtes leader en Espagne.
Écoute, enfin de vrais concurrents, je pense que pour l'instant non. On a plein de petits concurrents mais qui nous challengent. Voilà, pas des gens à qui on se sent danger, comme c'était le cas auparavant avec Areavan.
Ok, bon, ça marche, top. Comment tu as géré, et moi je trouve ça intéressant toujours, comment tu gères un niveau RH, recrutement, c'est toi qui l'es fait, comment ça se passe dans la team parce que pour moi, une entreprise avance et se porte bien si les managers aiment leurs employés et font en sorte de prendre soin de leurs employés. Comment ça se passe chez Escapa?
Écoute, donc chez nous, les process de recrutement, ils ont toujours évolué parce que quand t'es 15, c'est plus la même que quand t'es 30. Ouais. Là, on est 43 et on devrait être 60 cet été. Donc à chaque fois, tu te réorganises.
Cool.
Pour moi, le critère de oui ou non, on y va avec telle personne, c'est 50% compétence par rapport au poste.
Ouais.
25% motivation.
Okay.
Tu peux être méga, méga, méga expert dans ton sujet. Si finalement, venir chez Escapa, c'est pas tellement plus intéressant que d'aller chez une autre société, vaut mieux que tu ailles chez une autre société. Nous, on veut des gens qui ont faim et des gens qui soient contents de faire ce qu'ils font tous les jours. Et 25%, compatibilité avec l'équipe, compatibilité avec le mindset. Parce que vraiment, on a. Enfin, c'est notre force principale. Que d'avoir cet état d'esprit, on sort là d'un séminaire jeudi vendredi, on a fait une teuf phénoménale jusque pour les derniers couchés 5h du mat vendredi matin, tout le monde était derrière hyper sérieux sur les ateliers pro. Voilà, on arrive à conjuguer vraiment attachement, esprit de famille et exigence professionnelle. Et voilà, c'est super important pour nous de le conserver. On a beaucoup de chance dans nos premiers recrutements. Merci Julie, Valentine et les autres qui se reconnaîtront dans les premiers recrutements de gens qui ont maintenu cet état d'esprit, voire cultivé d'ailleurs au-delà de ce que nous on avait pu passer, leur passer à elles directement. Et ça s'auto-entretient, et il faut vraiment qu'on prenne attention à le garder, parce que c'est notre force complète.
Parce que l'idée, c'est de les prochaines années, vous comptez, parce que là, vous passez à 60 d'ici, donc en 6 mois. C'est quoi? C'est de.
Alors là, pourquoi on passe à 60? Deux choses. On commence à être sous-staffé en technique. Plus tu multiplies marché, en fait, il y a quand même toujours des adaptations, etc. Et finalement, il y avait un besoin qu'il fallait pourvoir parce que ça pouvait être un goulot d'étranglement par rapport au nombre où ils étaient. Donc, c'est un besoin qu'on comble. Et après, il y a le marché costaud déjà, France-Espagne, où à chaque fois, on essaye de traiter. Donc là, cette année, je parlais de 90%. Donc quasiment, tu doubles le nombre de réservations à équipe quasi ISO sur la saison. L'idée, c'est d'automatiser tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, de mieux de tout traquer et d'apporter les bonnes automatisations. Donc il te faut ton équipe technique qui ait la capacité de le faire pour que pour la saison d'après, tu multiplies pas le nombre d'agents service client en proportion avec ton nombre de locations. Sinon, la rentabilité, tu l'as jamais. Donc voilà, on démultiplie pas. Par contre, les pays en devenir, faut leur donner leur chance et de pousser. Et pour ça, il faut miser. Et c'est ça qui nous fait faire ce step.
Ok. C'est quoi les prochains pays, les prochaines ouvertures ?
Écoute, on a la Suisse sur laquelle, si je croise les doigts tout en touchant le bois de cette table, les choses devraient. On devrait avoir une bonne nouvelle à apporter très prochainement.
Cool.
Et on a lancé la Belgique l'an passé, qui n'est ouverte que sur la partie francophone, wallonne.
Ouais.
Donc, on a également un recrutement en cours pour s'ouvrir au groupe potentiel que représentent les Flamands.
Ok. Et hors Europe, à un moment donné ou pas ? Est-ce que vous vous dites, est-ce qu'il y a ce cas pas ? On va retrouver ça si on part aux States ? Est-ce qu'on va retrouver ça, même si je crois que vous avez un gros concurrent qui,
qui est présent là-bas, mais... Au travers de véhicules de professionnels qui sont venus plutôt spontanément sur le site, on va proposer des véhicules dans 17 pays.
Ok.
Au Mexique, par exemple, on a un type qui cartonne avec des vieux VV comme ils en ont plein là-bas.
Génial.
Et lui, il cartonne au travers d'une clientèle néerlandaise. Après, on va avoir des... avoir des véhicules en Afrique du Sud, mais c'est peanuts. Mm-hmm. C'est peanuts. Donc, oui, on va commencer à faire un effort pour aller chercher de l'offre au travers de véhicules de loueurs professionnels, parce que le challenge, c'est tout le temps, si tu veux t'ouvrir aux particuliers, c'est vraiment cette barrière de l'assurance à des niveaux de garantie suffisantes pour fournir ta promesse de qualité de service. Mm-hmm. Et du coup, on ne peut pas... Voilà, ça, c'est un effet frein pour partir partout très vite.
Okay.
Du coup, on va travailler la couverture de pays qu'on cible par rapport à l'offre potentielle de demande de voyage sur place, au travers de loueurs professionnels sur place.
Okay.
Et les États-Unis, on ne va pas bouger, en tout cas de manière volontaire, en y mettant du temps et des moyens. Oui, le potentiel est énorme. Par contre, sur place, on a aux États-Unis, on a déjà deux concurrents qui sont lancés, qui sont surfinancés à hauteur de 75 millions, à hauteur de 100 millions de dollars.
Ouais.
Et ils se font une guerre atroce à coup d'acquisition totalement dément, où bien sûr j'ai pas accès à leur PNL, mais ils doivent perdre des fortunes par location, donc on va les laisser se bagarrer
se bouffer entre eux
épuiser leur fortune là. Nous, pendant ce temps là on avance et on espère bien être suffisamment costaud pour être très fort sur toute l'Europe, et pourquoi pas demain, une fois qu'eux ils seront exsangues ou victorieux, on est qui pour prédire l'avenir, personne, pouvoir peut-être les challenger sur les États-Unis, mais pour l'instant notre colline à gravir, c'est l'Europe et uniquement l'Europe.
Ok, non, mais canon. Tu voyages en camping-car, Evan, de temps en temps ou pas?
Écoute, deux à trois fois par an.
Ah ouais?
Ouais, deux à trois fois par an. Je fais ou des longs week-ends, ou au moins une semaine par an, oui.
Ok. T'en as un de camping-car ou non d'utiliser?
Alors, j'en ai pas du tout. J'en ai pas du tout. Pourquoi en avoir un? Regarde, j'en ai 7500 dans 16 pays sur lequel je peux aller trouver celui dont j'ai besoin pour un besoin particulier, que tu partes à 5 ou à 2, tu vas pas choisir le même véhicule.
C'est sûr.
Et si t'as envie de te faire l'Algarve ou l'Écosse, avec ton propre véhicule, tu passerais la moitié de ton temps de vacances à aller rejoindre l'endroit, tandis que là,
c'est sûr.
Une heure t'y est et puis les vacances commencent.
Ouais. Ton plus beau road trip avec un van ou un camping-car, je sais pas. Alors j'imagine qu'il y en a plein pour le coup, si t'en fais 3 par an.
Alors 3 par an, je te dis, des fois c'est un vrai et des longs week-ends de 3 jours.
Après, tu peux avoir des week-ends, il y a des jeunes dans la France et je la trouve magnifique.
Ouais, carrément. Et du coup, mon plus beau road trip, moi je vais te dire que c'était au Portugal, dans l'intérieur du Portugal, bref, dans tout ce qui n'est pas méga trop touristique.
Ouais.
Okay. Dans les petits villages perdus où les gens t'accordent leur temps et leur attention parce que finalement, qu'est-ce que vous faites là?
C'est ça.
Avec un patrimoine architectural, avec de la bonne bouffe.
Moi,
je trouve que c'est un super moyen de te retrouver dans des endroits où il y a une vraie rencontre authentique. Là, sur l'Espagne, on fait quelque chose avec un site qui s'appelle Van Wo. qui a pour but de ramener du tourisme dans plus de 1500 petits villages qui sont dépeuplés, qui sont un peu en train de tomber en agonie, alors qu'ils ont un patrimoine architectural, gastronomique de fou.
Ouais.
Et vraiment voyager en véhicule dans ces régions, pas forcément les plus en une du premier voyage, du premier magazine de tourisme. C'est génialissime, c'est du vrai voyage, c'est de la vraie rencontre, et je vous encourage à le faire si vous m'entendez.
Non, carrément, c'est génial. Parce que tes voyages, tu les prépares ou pas? Quand tu pars, tu dis je vais dans cette région-là, et puis on va prendre prochaine à droite, allez, Inch'Allah, on verra bien.
Il y a deux écoles,
ouais.
Et moi j'aime bien me renseigner sur une région, etc. avant.
Okay.
J'aime bien en fait être en voyage en me préparant déjà.
Ouais, okay.
Mais après, c'est pas du tout du hors-parole, c'est plutôt au contraire. J'ai l'info sur la région,
ouais.
Et à partir de là, je peux construire de l'improvisation parce que je me suis renseigné avant.
Quand même un peu de préparation pour pouvoir improviser.
C'est ça.
Ok, super. Et là, ce que tu dis sur les villages et tout, est-ce que vous avez des villages, des communautés de communes, etc., qui vous demandent de recommander aux personnes qui passent par Yescapac de passer dans leur village et tout, et est-ce que vous êtes payé pour faire ça?
Absolument pas payé.
Ok, la question m'est venue comme ça. Donc
éventuellement, malheureusement. Mais
ouais.
En tout cas, c'est comme ça. Par contre, oui, on travaille avec. On est sollicité. Et nous, maintenant, dans la mesure où on a vu qu'il y avait l'intérêt de leur part, on sollicite maintenant spontanément,
ouais,
les offices du tourisme.
Mm-hmm.
Avant tout, pour avoir de l'info à reporter sur comment valoriser votre région. Nous, on aurait beau prendre des informations, voire y aller nous-mêmes.
Mm-hmm.
Vous êtes une base de connaissances, vous êtes l'expert de la région.
Ouais.
Nous, on peut vous aider en le mettant en avant, peut-être à attirer un peu de tourisme dans votre région. Et
mm-hmm.
C'est vrai que y a de la demande de leur part. Nous, quand on les sollicite, ils y répondent volontiers.
Ouais.
Et donc, oui, il y a un intérêt de leur part.
Ok. Parce que même, j'ai vu, vous avez dans les partenaires, il y a la Fédération des Villages Étapes. Ou c'est un partenaire, ou je sais pas,
c'est
que
tout
les références sur le site.
Ouais, ouais.
et donc ça fait partie justement pour en faire découvrir des endroits, même si c'est un peu connu, les villages étapes.
Et les villages étapes, surtout, il y a un engagement de leur part,
okay,
à bien recevoir les véhicules de loisirs. Donc il y a une charte qualité, etc.,
ouais,
qui fait que t'es à peu près sûr de ton coup,
ouais,
tu vas dans un de ces villages étapes.
Ok, parce que pareil, il y a une partie éducation pour les personnes qui vont louer un camping-car pour la première fois. Par exemple, moi, j'en ai jamais loué. Si j'y vais pour une première fois, je sais pas où me poser. Alors, je sais qu'il y a des applications qui existent.
Ouais.
On peut pas faire n'importe quoi. Vous participez aussi à cette partie éducation auprès des locataires?
Totalement partie de notre rôle.
Ouais, j'imagine. Je pose la question. Même
totalement
si
partie de notre rôle. On le fait tout autant que n'importe quel acteur du secteur.
Ouais.
On a une fédération. Qui, elle nous transmet les messages qu'elle transmet à l'ensemble des acteurs. Et puis nous, après, on a aussi nos propres messages qu'on essaye de transmettre auprès de notre communauté.
Mm-hmm.
Puisque vraiment, l'idée, c'est que le propriétaire, il sache que quelqu'un qui vient par Yescapa, il aura une confiance spontanée et mm-hmm. puis une sécurisation si finalement il y a un incident.
Okay.
Et donc, par rapport à ça, nous, il faut qu'on éduque autant que possible, donc dans l'appli, par des mesures aussi de précaution, sur de la co-conduite, ça nous aide énormément. Il faut qu'on surveille notre sinistralité.
Ouais.
Il faut vraiment que les gens, ils aient pas d'accident.
Ouais.
Parce qu'ils vont passer des meilleures vacances, le propriétaire sera content de pas récupérer un véhicule abîmé, et puis nous, on n'aura pas des tarifs d'assurance qui vont augmenter de façon démentielle.
Mm-hmm.
Donc c'est un enjeu de satisfaction client, mais aussi un enjeu de essentiel pour la boîte.
Ouais, ouais, c'est clair. Okay. Parce que oui, j'ai vu il y a un article qui est sorti en décembre où le titre de l'article, c'était Yescapa ou comment voyager en protégeant la planète. Je trouvais ça bon. Alors les titres d'articles parfois sont un peu costauds. T'en penses quoi?
Alors, j'en pense qu'il y a un petit peu de greenwashing quand même derrière tout ça. J'en pense qu'il y a un petit peu de greenwashing derrière tout ça et j'aimerais bien voir l'article.
J'irai pas jusqu'à protéger. Alors après, voilà, tout est relatif, mais effectivement, on pollue peut-être moins en prenant un camping-car qu'en prenant l'avion.
Ça, c'est une certitude. On pollue autant en camping-car que si tu vas dans un hôtel à 4 heures de route de chez toi, donc un week-end de 3 jours. Par exemple, c'est ISO.
Okay.
Des études qui le disent, fédération finlandaise et fédération allemande, il y a 4-5 ans aussi, qui avaient à peu près donné le même résultat.
Ouais.
Par contre, protéger la planète, non. Non, là c'est un peu too much.
Je me suis dit, il est quand même allé un peu fort dans l'article, le titre de l'article.
Mais la notion de slow travel, la notion. Je suis vraiment très content dans notre sujet. si on veut parler de bons sentiments et de bonnes choses, c'est qu'on encourage les gens à faire confiance à leurs voisins, ou pour leur confier un véhicule qui vaut une fortune, ou pour leur confier tous les moments les plus précieux, c'est-à-dire que tu confies au propriétaire le fait qu'il te mettrait et à Escapa confierait un véhicule qui est en suffisamment bon état pour que tu puisses passer tes vacances avec, et tes vacances, bah, tu les anticipes, les prépares, t'en reparles après, c'est précieux chez tout le monde.
C'est clair.
Et le petit truc que je trouve qui est utile, c'est de faire de plus en plus confiance à ton voisin et de pas le voir comme une défiance. Et la démonstration est faite qu'en général ça se passe bien et qu'il faut pas, il faut continuer à s'ouvrir plutôt qu'à se refermer tous dans notre petite coquille et dans notre petite bulle.
On est bien d'accord. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ?
Ce qui m'anime au quotidien, c'est deux ambitions. Un, devenir un réflexe de vacances. Donc on a suffisamment. Le bouche à oreille est une de nos premières recommandations. On a suffisamment eu de clients à qui, oui, on a délivré un service qui était satisfaisant pour que derrière ils en aient parlé à leur réunion de famille, à leur bouffe entre copains, et que les mecs aient ça dans la tête pour préparer leur prochain moment de libre. Et deux, c'est notre première boîte, à Adrien et à moi. Pour nous, c'est hyper important de continuer à le faire. Donc de garder l'esprit qu'on a maintenant, à la fois très pro mais aussi très bienveillant et quasi familial, de le conserver alors que la boîte grandit, alors que tout le monde n'est pas tout le temps forcément au même endroit, dans les mêmes locaux, et de conserver ce bon état d'esprit là qui nous a bien réussi jusqu'à présent.
Ok, bah, tant mieux, j'espère que ça pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais qu'on revienne, ou quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu te dis, ah ouais, quand même, ce serait cool d'en parler.
Ok. Ouais, alors, je sais pas à qui je m'adresse dans le pompon, mais si c'est aux gens qui planchent sur un projet et qu'en son moment où bah, ils se payent pas, ils ont bien un target en vue, mais pour l'instant, rien n'est fait, ils se battent tous les jours pour le construire et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Et du coup, t'as monsieur Trigano. Donc Trigano, c'est une trentaine de marques dans le véhicule de loisirs, plus d'un milliard et demi de CA, donc je ne vais pas citer le nom de cette personne, mais enfin c'est monsieur Trigano, il pèse incroyable dans le secteur du véhicule de loisirs. Et ce monsieur, en 2013 ou 14, m'avait reçu en me disant, alors c'est vous Satanas, à cause de vous, moi, je peux plus louer mes véhicules et vous avez fait, enfin, d'une façon hyper provocante, après avoir poireauté deux heures. Et c'était une sorte de test. Donc vraiment parce que tous les gens du secteur nous voyaient comme un concurrent sur les 3% de leur CA qui était la location. Et maintenant, en fait, les gens ont vu que, un, on était sérieux. Finalement, un véhicule qui est loué, c'est un véhicule qui va plus rapidement être renouvelé par du neuf, qui va être plus souvent entretenu. Donc, ça génère du CA pour le secteur. Et du coup, qu'une hostilité très forte comme ça est vraiment. Là, je cite lui parce qu'il était totalement caricatural dans la façon dont il m'avait abordé. Mais l'intégralité, enfin, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça. Et finalement, en se tenant à son cap d'essayer de bosser bien, on est tout à fait accepté. Les gens nous voient maintenant comme les concessionnaires, les garages nous voient désormais comme des partenaires crédibles et bienvenus. Et du coup, vous qui êtes en train de ramer, le courant, le vent est parfois de face et le courant opposé, tenez bon, votre persistance payera.
Ok, excellent conseil, parfait. Je crois qu'on peut finir là-dessus sur un conseil parfait. C'est bon, ça te va ?
Ça me va très bien.
Ouais, ça te va très bien. Et super. Et écoute, merci beaucoup, Benoît. C'était un plaisir de te recevoir. Et puis à très bientôt. Et donc on va sur yescapa.com.
.com.fr sur les apps.
Ok, et pareil, on te retrouve où toi si on veut te suivre, suivre l'actualité, LinkedIn, Facebook, Twitter.
Écoute, Facebook, je l'ai pas mal lâché, mais Twitter ou LinkedIn.
Ok, ça marche. Et bien, c'est parfait. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader le temps d'un week-end ou de plusieurs semaines. Ce qui serait top, ce serait de partager, liker, recommander, noter avec 5 étoiles, enfin faire tout ce que vous pouvez pour que ce podcast soit connu et écouté par le plus grand nombre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi passionnant du Pompon. Et surtout, d'ici là, rencontrez un maximum de monde. Allez, bonne semaine à tous !